une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour et d'abord bonne année à chacune et à chacun d'entre vous qui m'écoutez de l'autre côté du micro en ce moment même. Je suis ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements après notre supplément spécial sur l'année 2017, samedi dernier. Un grand merci d'ailleurs pour vos messages. Je remercie également la Sonothèque de la radio qui fait un gros travail d'archivage des sons que vous écoutez tous les jours. Une semaine d'actualité donc, nous partirons cette semaine pour l'Iran et la République démocratique du Congo notamment. Nous sommes en compagnie de Sédic Abba, journaliste, chroniqueur au Monde Afrique, un fidèle de l'émission. Bonjour Sédic.
Bonjour Pierre-Edouard, bonjour à tous les fidèles auditeurs de cette émission emblématique de RFI. Et je profite pour souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2018.
Et je ne sais pas si elle est emblématique, mais elle file sur ses 22 ans, cette émission. C'est dit que bonne année à vous, bonne année à chacune et à chacun d'entre vous, avec, je souhaite, de nouveaux livres. On en reparlera peut-être cette année, c'est dit que. On va commencer l'année avec vous, après avoir terminé 2017 en compagnie de Yann Mince, avec qui nous avons fait une petite synthèse de ce qui s'était passé en 2017. Qu'est-ce qui vous a marqué vous en 2017 pour jeter un dernier regard sur cette année qui s'est achevée il y a quelques jours?
Oui, je pense qu'on ne pourra pas oublier en 2017 les changements importants qu'il y a eu au Zimbabwe après 37 années de règne, oui. En Angola aussi où il y a eu à peu près 37 années de règne, en Gambie où le dictateur Yahya Jammeh a été évincé du pouvoir après 22 ans. Donc il y a cette alternance qui s'est opérée dans un certain nombre de pays africains qui ont marqué mon attention sur le plan politique, mais il y a aussi tout le grand débat qu'il y a eu sur la question du franc CFA. C'est la première fois que la question est posée de façon aussi cruciale, de façon aussi importante. Et c'est la première fois que les dirigeants français et africains ont été obligés de se prononcer, de prendre position sur le franc CFA. À mon avis, ces deux événements, à la fois politiques et économiques, ont été marquants pour l'année 2017.
Alors, regardons 2018, après quelques jours après sa naissance, Sédic Abba. Et commençons notre voyage, non pas en Afrique, mais en Corée du Nord. À retenir ces derniers jours des échanges aigre-doux à coups de tweets, notamment du côté américain, entre le dictateur de Pyongyang et le président Trump à propos de plus ou moins gros boutons permettant de déclencher une attaque atomique et une détente certaine en revanche avec la Corée du Sud, Séoul mardi, Frédérico Jardias.
La présidence sud-coréenne a qualifié de très significative la réouverture de la ligne téléphonique entre les deux Corées. Une ligne qui en réalité n'avait jamais été physiquement coupée. Pyongyang refusait simplement de répondre au téléphone depuis février 2016 et le quatrième essai nucléaire nord-coréen. Cette réouverture confirme l'intention de la Corée du Nord de discuter de sa participation aux Jeux Olympiques d'hiver. Séoul espère de son côté que ces pourparlers amèneront ensuite à discuter d'autres sujets, notamment du nucléaire. Mais autant Séoul est enthousiaste à l'idée de reprendre le dialogue, autant les États-Unis sont circonspects. Dans un tweet plus constructif que celui sur la taille de son bouton nucléaire, le président Donald Trump a déclaré « C'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas, nous verrons ». Le département d'État américain se dit prêt à accepter une rencontre intercoréenne, mais il affirme douter de la sincérité de Kim Jong-un. Il craint que la main tendue par le régime ne vise en réalité à enfoncer un coin dans l'alliance entre Séoul et Washington.
En tout cas, la Corée du Sud et la Corée du Nord vont mener la semaine prochaine des discussions bilatérales pour la première fois depuis plus de 2 ans. Une semaine d'actualité, ça c'est un événement important de la semaine. Il faut y ajouter, puisque nous avons évoqué le président Trump, le livre qui vient de sortir aux États-Unis, qui sort là en ce moment même, livre d'un journaliste américain qui s'appelle Michael Wolff, qui raconte des choses qui ne plaident pas en faveur du président américain, dans un livre qui vient de sortir et qui cite notamment Steve Bannon, qui a été longtemps le conseiller, enfin longtemps, tout est relatif, du président américain, et qui est une sorte d'éminence grise. Pour Steve Bannon, le fils du président américain, Donald Trump Jr. a commis une trahison en rencontrant une avocate russe qui offrait des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Donc l'année commence bien pour Donald Trump. D'abord la Corée, enfin ce dialogue un peu étrange entre la Corée du Nord et les États-Unis.
Oui, ça, à mon avis, il y a à craindre, puisqu'il y a une escalade du fait de l'irresponsabilité de part et d'autre. Le président Trump et ses tweets incendiaires, le dirigeant coréen lui-même et sa posture guerrière, ça peut nous amener à la confrontation. Heureusement qu'il y a des pays qui essaient de s'interposer, notamment qui ont, la Chine qui a une influence sur la Corée du Nord encore, et les alliés, y compris européens des États-Unis, qui appellent à la modération, à la recherche d'une solution politique, je pense. C'est vers ça qu'il faut aller. Il faut redouter que ces deux acteurs-là, le président Trump et le Coréen, entrent dans une période d'escalade, puisqu'on parle de bouton nucléaire, qu'il nous provoque une catastrophe qu'on aura du mal à gérer par la suite. À mon avis, le fait que, parallèlement, qu'il y ait une certaine décrispation entre les deux Corées est un élément, est une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer pour essayer d'aller vers un compromis politique, parce qu'on a vu que même les sanctions, au fur et à mesure que les sanctions sont prises par les Nations Unies, les dirigeants coréens persistent et se sentent confortés dans leur volonté d'aller en avant dans la confrontation. Donc, il faut éviter à tout prix cette confrontation. Et si l'année commence déjà dans cette posture-là, il est à craindre que entre les États-Unis et la Corée, on en vienne à une phase militaire. Et ça, c'est à craindre pour le monde entier.
Mais vous l'avez évoqué, c'est dit que la bonne nouvelle de ces derniers jours, c'est cette détente entre les deux Corées.
Absolument.
On sent de la part de la Corée du Sud la volonté de dialoguer avec son voisin du Nord. On comprend pourquoi. Ils sont voisins.
C'est ça, ils sont voisins. Et le fait qu'on ait rétabli les canaux de communication, cette ligne téléphonique qui permet d'être en contact, la perspective des jeux du 9 février, les jeux d'hiver qui vont avoir lieu en Corée du Sud, et la perspective aussi de la participation de la Corée du Nord à ce jeu-là, et sont des éléments, à mon avis, sur lesquels il faudra capitaliser pour convaincre Pyongyang d'essayer de desserrer. Parce que la menace ne suffit pas avec ce type de régime autiste qui n'entend rien. Il faut plutôt prôner le dialogue, plutôt prôner la diplomatie. Et peut-être qu'en passant par le canal de la Corée du Sud, on pourrait amener les Nord-Coréens à avoir une attitude moins vent-en-guerre.
Suite d'une semaine d'actualité dans le monde avec vous, Sédic Abba. Nous partons pour l'Iran maintenant, après les manifestations contre le pouvoir dans de nombreuses villes du pays au début de la semaine. 21 morts, des centaines d'arrestations. Téhéran, mardi, Tiavosh Ghazi.
Téhéran est resté calme mardi soir, alors que les jours précédents, de petits groupes de protestataires avaient tenté de manifester dans le centre de la capitale. En province, la situation semblait également plus calme. En effet, dans les médias officiels et sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup moins de vidéos de violence, contrairement aux nuits précédentes. Le président iranien Hassan Rouhani a appelé son homologue français Emmanuel Macron pour lui demander d'agir contre les groupes terroristes iraniens qui sont basés en France, dans une claire allusion aux moudjahidines du peuple. Les autorités accusent en effet les moudjahidines du peuple et les monarchistes, ainsi que les États-Unis et l'Arabie Saoudite, d'attiser les violences, notamment à travers les réseaux sociaux. Le guide suprême iranien, l'Ayatollah Khamenei, a pris la parole pour la première fois pour condamner les ennemis de l'Iran qui utilisent tous les moyens pour créer des problèmes au régime islamique. Le président Rouhani a de son côté affirmé que le peuple allait répondre à une petite minorité qui est à l'origine de ces troubles. Les réformateurs de l'ex-président Mohammad Khatami l'ont entretenu à l'écart, ont également condamné ces violences, mais également l'attitude des États-Unis. Le pouvoir dans son ensemble a donc serré les rangs en dénonçant les fauteurs de troubles.
Alors l'administration Trump a soutenu ce mouvement, verbalement du moins, et aussi dans les faits, dit Téhéran. Washington mardi, Grégoire Portier.
Nous ne pouvons pas rester silencieux, a encore martelé l'ambassadrice américaine aux Nations Unies ce mardi. Donald Trump lui-même l'exprime tous les jours sur Twitter, les États-Unis soutiennent les manifestants iraniens. Ainsi, non seulement Nikki Haley salue leur courage, mais elle veut carrément amplifier leur voix. Alors, à quel point Washington pourrait être impliqué dans le déclenchement de ces événements ? La diplomate balaie les théories du complot d'un revers de main.
La dictature iranienne essaie de faire ce qu'elle fait à chaque fois, dire que le mouvement est fomenté par les ennemis de l'Iran. Nous savons tous que cela n'a aucun sens. Les manifestations sont totalement spontanées. Elles se déroulent quasiment dans chaque ville du pays. C'est précisément l'image d'un peuple longtemps opprimé et qui se soulève contre ses dictateurs.
En 2009, déjà, une vague de contestation avait ébranlé l'Iran et l'administration américaine actuelle n'a de cesse de rappeler la frilosité du président de l'époque, Barack Obama. Cette fois, les États-Unis condamnent sans aucune retenue la répression de Téhéran. Surtout, ils font planer la menace d'un retrait de l'accord sur le nucléaire iranien et ils n'hésitent même pas à mettre de l'huile sur le feu, tout en exprimant sans surprise leur vive inquiétude. Nikki Haley demande ainsi à la communauté internationale de se saisir du dossier. Pour le moment, l'ONU reste mesurée, espérant toutefois, je cite, que les droits de réunion pacifique et d'expression du peuple iranien seront respectés.
Alors mercredi, Sedi Kaba, selon Téhéran et la milice des gardiens de la révolution, le calme était revenu dans le pays. Sami Boukhalifa.
Les gardiens de la révolution sont restés à l'écart de ce mouvement de contestation populaire. Leur général prend finalement la parole et réduit considérablement l'ampleur de la mobilisation. Pour Mohamed Ali Jafari, à travers toute la République islamique, il y a eu au maximum des rassemblements de 1500 personnes. Sur l'ensemble du territoire, le nombre des fauteurs de troubles n'a pas dépassé les 15 000 personnes. Toutes sont accusées désormais d'avoir des liens avec les monafirines ou les hypocrites, terme utilisé pour désigner les moujahidines du peuple. Ces opposants basés à l'étranger et notamment en France sont considérés par Téhéran comme membres d'une organisation terroriste. Fort d'un soutien populaire qui a poussé des milliers d'Iraniens dans la rue durant ces dernières 24 heures pour soutenir le régime des mollahs, le chef des gardiens de la révolution affirme que le peuple a très vite compris que cette semaine de contestation était une machine. D'où la forte mobilisation des manifestants pro-régime rassemblés dans plusieurs villes d'Iran pour condamner les troubles.
Ces manifestations pro-régime ont effectivement été organisées ces trois derniers jours dans le pays. La situation en Iran et dans d'autres parties du monde est à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio RFI.fr. Une semaine d'actualité continue, toujours en compagnie de Sedi Kaba. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention ce point sur ce qui s'est passé ces derniers jours en Iran.
Oui, effectivement, l'Iran, comme on sait, du fait de l'embargo qui lui avait été imposé, traverse des difficultés économiques et il y a une jeunesse iranienne connectée aux réseaux sociaux, à Facebook, à Twitter, qui aspire à une certaine évolution dans le pays. Cela est incontestable. Mais maintenant, il faut comprendre que fragiliser le régime actuel ne peut que servir les conservateurs. La déstabilisation de l'Iran, compte tenu de son poids dans la sous-région, même on sait qu'elle est en rivalité avec l'Arabie Saoudite, pour une hégémonie sous-régionale, la déstabilisation du régime actuel iranien peut avoir des conséquences. C'est pour cette raison que je pense que, comme on a vu le voir, si les États-Unis ont été en première ligne pour espérer que les difficultés du régime s'accentuent, en revanche, l'Union européenne et le reste du monde ont été beaucoup plus prudents, sachant que la contestation, la déstabilisation du régime iranien actuel peut servir les jeux de conservateurs. Le président Rouhani, qui est modéré, par exemple, a été bien inspiré de ne pas faire une répression. C'est évident qu'il y a eu une vingtaine de morts, mais s'il y avait une répression implacable, le nombre de morts aurait été beaucoup plus élevé et de ce point de vue, ça aurait fait le jeu des conservateurs qui auraient récupéré cela. Il faut aussi dire que on sait que l'Iran a fait beaucoup d'efforts pour se réconcilier avec la communauté internationale. L'accord de 2015 signé avec, qui a permis de mettre fin au programme nucléaire et de lever les sanctions. Si cela et tout cela a été fait avec les partenaires internationaux, notamment l'Amérique de Obama. Et aujourd'hui, il y a une tentative de remise en cause de la part de Donald Trump et de son administration. Mais à mon avis, sur le long terme, la déstabilisation de l'Iran ne profitera ni aux États-Unis ni à la stabilité régionale.
Alors Trump et le livre dont je parlais tout à l'heure de Michael Wolff sur c'est la pratique et sur le fait que Donald Trump n'avait finalement pas envie d'être, d'après le livre, d'être président. Il a été surpris, semble-t-il, d'être élu et ça l'a même inquiété.
Oui, c'est tout à fait. On attend d'avoir les bonnes feuilles qui ont été publiées pour l'instant par nos confrères du New York Magazine sont très intéressants et ils nous ont sont très alléchants. On attend de voir la suite. Et parlant du livre, moi j'ai terminé l'année avec la lecture d'un livre. Je ne suis pas, il y a pas de concertation avec vous, mais vous serez surpris. Le livre qui m'a marqué et qui a même eu un choc thérapeutique à moi, c'est Le plaisir du journalisme que vous avez coécrit
avec Claude Angélie, du Canard Enchaîné,
par son contenu. Parce que j'ai retrouvé une sorte de thérapie dans ce livre. Parce qu'à un certain moment, du fait du livre que j'avais publié en 2013 et des difficultés, des mesquineries, de la tentative de déstabilisation que moi-même j'ai connue, j'en étais arrivé à penser, est-ce que c'est pas moi qui suis... Est-ce que je ne suis pas devenu paranoïaque? Est-ce que je ne suis pas fou? Mais quand j'ai lu le livre, la somme d'informations, la qualité d'écriture, la fluidité... Mon complètement guéri et ce livre, j'en suis arrivé à l'acheter pour le donner à des gens.
Eh bien écoutez, je ne sais pas quoi dire. Alors je ne dis rien.
Non, mais ne dites rien.
Alors revenons, Sédic, maintenant sur la menace de Donald Trump. Encore lui, réitérait mardi de ne pas aider financièrement les Palestiniens cette année tant que ceux-ci ne reprendront pas les négociations avec Israël. Correspondance de Guillaume Deltay.
Le ton des États-Unis s'était déjà fait menaçant il y a 15 jours lorsque les Palestiniens avaient présenté à l'ONU une résolution condamnant la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem. En réponse, les Palestiniens avaient alors affirmé que leurs droits ne sont pas à vendre, une position dont ils ne varient pas aujourd'hui maintenant que les menaces se font plus précises. Donald Trump a saboté notre quête de paix, de liberté et de justice, a estimé Hanan Ashrawi, membre du comité central de l'Organisation de libération de la Palestine. Donald Trump et son entourage sont peut-être bons pour négocier des contrats commerciaux, mais là il s'agit de dignité et de valeur, a pour sa part réagi le porte-parole de l'OLP joint ce matin par RFI. Javier Aboaïd reconnaît que l'arrêt des aides américaines aurait un impact énorme, mais il attaque les États-Unis qui menacent, dit-il, d'affamer des enfants, de les priver du droit fondamental à l'éducation pour un processus de paix qui n'existe pas près d'un mois après la reconnaissance par l'administration Trump de Jérusalem comme la capitale d'Israël. Le fossé semble ne cesser de croître entre Américains et Palestiniens.
Il faut rappeler qu'en 2016, les États-Unis ont versé 319 millions de dollars aux Palestiniens via des agences de développement et 304 millions via l'ONU. Une semaine d'actualité, suite et fin de cette première partie. Il faut aussi souligner, c'est dit, que la suspension de l'aide au Pakistan, des centaines de millions de dollars d'assistance sécuritaire gelés. Un mot sur cette tension, là cette fois entre les États-Unis et les Palestiniens ?
Non, je crois que ça confirme ce qu'on avait vu. Les États-Unis sont dans une diplomatie de la menace, dans une diplomatie du chantage à la sanction. Dans le cas des Palestiniens, c'est contre-productif puisque les Palestiniens ont réagi en disant qu'ils ne céderont pas au chantage. Je pense que ce n'est pas le meilleur levier qu'une administration comme celle des États-Unis peut actionner envers des alliés ou des ex-alliés comme le Pakistan. Le Pakistan est un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme, notamment en Afghanistan. On sait que les services pakistanais ont pris une part active dans la création de ACMI, dans la déstabilisation de l'Afghanistan. Si aujourd'hui on braque le Pakistan, ça peut être contre-productif. Et à mon avis, souvent, on a l'impression que la diplomatie américaine d'aujourd'hui, en tout cas, n'anticipe pas sur les conséquences des décisions qu'elle peut prendre. Et c'est le cas dans le cadre de la Palestine et du Pakistan.
Et on a surtout aussi l'impression, on s'est dit, que Donald Trump veut systématiquement prendre le contre-pied de Barack Obama. Non ?
Oui, absolument. Même quand Obama a fait quelque chose de bien. Mm-hmm. Et c'est ça qui est... L'État est une continuité. À mon avis, il y a comme une politique de tout ce qui est contre Obama et bien pour les États-Unis aujourd'hui. Or, il y a dans ce que Obama a fait des choses qui sont bien, d'autres qui le sont moins bien. Et on mesure aujourd'hui la difficulté des Américaines. Comme vous savez, Tillerson a failli démissionner. En tout cas, la rumeur a persisté au point où il a dû lui-même dire, puisqu'il a pris des positions et il a été contredit par la suite par le président. Et on ne sait pas aujourd'hui qui est le vrai patron de la diplomatie américaine. C'est sans doute Trump et les tweets, cette nouvelle forme de diplomatie à travers des tweets. Les collaborateurs du président américain découvrent dans des tweets ce qu'il a dit, eux-mêmes n'ont pas été associés et souvent sont obligés de faire les pompiers pour rattraper.
Et on sait qu'il y a un gros malaise entre la Maison-Blanche et le Département d'État aujourd'hui à Washington.
Absolument.
Les diplomates américains ne sont pas très contents, c'est le moins qu'on puisse dire, de décisions prises à la Maison-Blanche. Sédic Abba, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde de ces dernières heures et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour vivre 7 jours d'événements avec, bien sûr, les reportages de la rédaction. Nous sommes cette semaine, cette première semaine de janvier 2018, en compagnie de Sadi Kaba, journaliste chroniqueur au Monde Afrique. D'Afrique, il sera question dans quelques minutes. Mais auparavant, arrêtons-nous un instant en France, en ces premiers jours, donc, de 2018.
Une semaine d'actualité.
En France et en Corse, le dirigeant indépendantiste Jean-Guy Talamoni a été élu sans surprise mardi président de l'Assemblée de la nouvelle collectivité territoriale unique de Lille. Avec 40 voix sur 63, les nationalistes qui avaient obtenu 57% des suffrages au second tour des élections territoriales du 10 décembre y disposent de la majorité absolue. Un reportage de Marine de la Moissonnière.
Sa vittoria a olio di diga a militanti nazionali.
Un discours entièrement en Corse dédié aux combattants du FLNC. Jean-Guy Talamoni se défend de toute provocation. Il refuse simplement de renier la lutte armée, même si elle appartient désormais au passé. Le combat pour l'autonomie de la Corse a commencé il y a 40 ans, rappelle-t-il. Un combat qui n'est nullement synonyme de haine de la France.
Il y a encore une partie de l'opinion française qui est à convaincre que notre combat n'est pas un combat anti-français, c'est un combat pour la Corse, pour les droits de notre peuple, pour servir simplement un petit peuple qui est présent depuis le fond des âges, qui n'a jamais fait de tort à personne et qui veut simplement exister.
Jean-Guy Talamoni devra aussi convaincre une partie des Corses. Un habitant sur deux n'a pas voté. Les nationalistes ont beau affirmer que la question de l'indépendance ne se posera pas avant au moins 10 ans. Certains sont inquiets. Jean-Martin Mondoloni, leader de la droite régionaliste, principale force d'opposition, sera très vigilant.
C'est oui à la diversité, oui à la respiration des territoires, oui à la reconnaissance du fait identitaire, mais pour ce qui nous concerne, dans le cadre de la République. L'essentiel pour nous, c'est l'appartenance à la République, tout simplement.
Jacqueline Gourault, la Madame Corse du gouvernement, a été accueillie par les deux dirigeants nationalistes, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, vendredi à Ajaccio. On vous en parle dans nos journaux. La Saint-Sylvestre a été marquée dimanche et lundi par la violente agression de policiers roués de coups, notamment lors d'une intervention à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, et par une hausse du nombre de véhicules incendiés et d'interpellations en France durant la nuit. Sur cette nuit difficile pour la police dans la région parisienne, les explications de Pierre-Olivier.
Lundi 1er janvier, aux alentours de 18h, deux policiers entrent dans la cité des 3000 d'Aulnay-sous-Bois. Venus pour un simple contrôle de scooter volé, ils sont soudainement pris à partie par plusieurs personnes. L'un des fonctionnaires est frappé à la tête, l'autre sort son arme de service et tire en l'air. Bilan, 8 jours d'incapacité totale de travail et plusieurs contusions pour le policier blessé. Une agression qui intervient quelques heures seulement après d'autres violences commises sur des forces de l'ordre. Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre à Champigny-sur-Marne, là encore près de Paris. Des policiers sont appelés par les organisateurs d'une soirée du Nouvel An privé, débordés par la présence de 300 individus qui cherchent à forcer le passage. La scène est filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit notamment une gardienne de la paix au sol, rouée de coups, hurlant de peur et de douleur. Sur Twitter, le président Emmanuel Macron a qualifié cette agression de lynchage lâche et criminel. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a quant à lui assuré que tout serait mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes inqualifiables.
Sadi Kaba, avant de vous retrouver, sachez que les auteurs de fausses nouvelles diffusées en période électorale seront punis désormais. C'est ce qu'a annoncé mercredi lors de ses vœux à la presse Emmanuel Macron, Valérie Gaz.
Emmanuel Macron veut réglementer la diffusion des contenus sur Internet et les réseaux sociaux durant les périodes électorales pour lutter contre la propagation des fake news. Ces rumeurs sans fondement qui apparaissent sur des sites, le chef de l'État les juge dangereuses pour la vie démocratique.
Des plateformes, des fils Twitter, des sites entiers inventent des rumeurs et des fausses nouvelles qui prennent rang aux côtés des vraies. La réalité est qu'il y a là une stratégie financée, visant à entretenir le doute, à laisser penser que ce que disent les politiques et les médias est toujours plus ou moins mensonger.
Dans le viseur d'Emmanuel Macron, il y a ses organes d'influence comme Sputnik ou Russia Today, financés par la Russie, qui avaient diffusé des rumeurs sur lui pendant la campagne présidentielle et dont il avait déjà dénoncé les pratiques devant Vladimir Poutine lui-même lors de sa visite à Paris. Emmanuel Macron veut donc muscler l'arsenal juridique de contrôle grâce à une loi et au renforcement des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une autre réforme touchant le monde médiatique est à l'ordre du jour pour le chef de l'État, celle de l'audiovisuel public dont il a défini les missions.
L'audiovisuel public est au service de la cohésion nationale et il doit être pensé pour tous les publics, pour toutes les pratiques et viser l'excellence.
Emmanuel Macron a précisé le calendrier de cette réforme. Le projet de loi doit être présenté avant la fin de l'année.
Suite à une semaine d'actualité en compagnie de Cédric Caban, on va peut-être commencer avec ça, cette loi en préparation contre les fake news, les fausses nouvelles diffusées en période électorale. Ça vous inspire un commentaire ?
Si le diagnostic est tout à fait vrai et pertinent, que ces fake news affaiblissent la démocratie, puisqu'ils portent de jugement sur des candidats, ils inventent des histoires pour déstabiliser des candidats, c'est un facteur qui ça affaiblit la démocratie, c'est tout à fait exact. Ça décrédibilise la vraie presse, puisque dans les fake news, on dit voilà la vraie information. Ouais. Ce que les journalistes vous racontent, c'est du mensonge. Ils sont des vendus, ils sont acquis au capitalisme, ils sont acquis à ceci, cela. Donc ça décrédibilise la presse. Le diagnostic en lui-même me semble juste. Il faut combattre ce phénomène qui a pris de l'ampleur surtout ces dernières années. Mais la solution qui est proposée par Macron me paraît moins évidente. Est-ce que c'est une loi qu'il faut ? Ça ne me semble pas. C'est peut-être pas une loi. Il faut trouver d'autres mécanismes parce que la loi, ça peut être contre-productif.
Alors, surtout que nous sommes en France et que les lois ont tendance à s'empiler, il existe déjà des lois qui punissent la diffusion de fausses nouvelles.
Absolument. Le plus fameux texte de loi qui régit la presse, la loi de 1881, est puni déjà. Il y a des dispositions. Il faut la révisiter, il faut la voir, l'actualiser peut-être, et il faut l'appliquer. Il y a des dispositions qui n'ont pas été appliquées. Il faut peut-être, c'est là qu'il faut aller, que plutôt que d'aller rentrer dans un mécanisme législatif qui prendra du temps, qui viendrait alourdir déjà l'agenda de l'Assemblée nationale. Ensuite, quand elle va être promulguée, il faudra des décrets d'application. Je pense qu'on risque de perdre beaucoup d'énergie. Il y a déjà des dispositions aujourd'hui et il faut faire de la pédagogie pour que les gens comprennent que ces fake news là, quelle est leur nuisibilité et en quoi ils ne sont pas crédibles, ils ne peuvent pas être mis sur le même pied d'égalité que le journalisme qui est, comme vous l'avez expliqué dans les plaisirs du journalisme, un métier noble. Moi, je reviens sur cette affaire. J'ai eu beaucoup de fierté à lire les plaisirs du journalisme, à la fois parce que les gens ont des scrupules à s'attaquer aux journalistes, même quand ils sont puissants, mais aussi parce que c'est un métier qui participe de la formation et de l'éducation civique.
Et vous l'avez souligné, Cédric, c'est un métier, c'est une profession, et on ne diffuse pas des nouvelles n'importe comment. Il y a des règles qu'il faut suivre pour que ces informations soient crues et soient dignes d'être lues par les électeurs et écoutées par aussi les auditeurs.
Absolument. Comme on dit dans le métier, il vaut mieux rater une bonne information que de diffuser une fausse information.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages. Continuez comme en 2017 à nous écrire à cette adresse et à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Également, vous avez été très nombreux à nous souhaiter une bonne année. Je ne peux malheureusement vous citer tous. Un bonjour quand même à Oumar Bobo à Yaoundé, à Marie Gata à Paris, à Mohamedou et Babacar qui est étudiant en droit à Dakar. Bonjour à Gariadji et Souleymane à Djamena. Un salut également à Adji à Boaké en Côte d'Ivoire, à Nassine à Bambili au Cameroun et à Jules qui est comptable à Lomé. À chacune et à chacun d'entre vous qui m'écoutez en ce moment même, bonne année.
Sept jours en Afrique.
Cédric Caba, partons pour la République démocratique du Congo maintenant. Au moins 5 morts dans des rassemblements de chrétiens dans quelques 170 paroisses contre le président Joseph Kabila dimanche 31 décembre. Selon un bilan de l'église congolaise publié mercredi, l'église qui est en première ligne dans l'opposition au pouvoir, Kinshasa mardi, patient Ligoti.
La grandeur de l'homme se situe non dans les astuces politiques pour la conquête du pouvoir, mais dans la mesure où cette sagesse politique est mise au service du peuple. C'est ce que déclarait déjà dans son homélie le cardinal Laurent Mossengo Passigna à l'occasion de la fête de Noël 2017. L'archevêque de Kinshasa remit une couche en dénonçant, dit-il, l'accaparement des richesses et le maintien au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles.
L'instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes, comme par exemple l'accaparement des ressources et le maintien au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles, peut provoquer et provoque des dommages aux sociétés, en l'occurrence la nôtre.
Le cardinal a eu également des mots durs à l'endroit des forces de l'ordre des sécurités qu'il qualifie de prétendus hommes en uniforme qui ont, d'après son récit, tiré à balles réelles et à bout portant sur des manifestants. Laurent Mossengo souhaite par conséquent un renouvellement de la classe dirigeante.
Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique que les médiocres dégagent.
Dans ces climats politiques tendus, le cardinal Mossengo a également appelé les uns et les autres à la retenue.
Le Togo maintenant, comme tous les dirigeants de la planète, le président a présenté ses vœux dans le climat politique que l'on sait, marqué par un débat sur la limitation de la présidence à deux mandats. Écoutons fort Niassim Bey.
Le Togo mérite que chacun d'entre nous lui donne le meilleur. Et le meilleur, à mon sens, c'est de valoriser, entretenir et préserver les acquis, puis d'œuvrer à améliorer l'existant en opérant les réformes qui s'imposent dans le respect des principes de l'état de droit et de la démocratie. C'est dans cette optique que j'ai pris au mois de septembre dernier, avec le gouvernement, l'initiative de proposer à la représentation nationale une révision de la Constitution qui limite désormais à deux le nombre des mandats présidentiels et législatifs et qui introduit pour l'élection du président de la République un mode de scrutin uninominal à deux tours. Conformément à notre loi fondamentale, c'est maintenant au peuple togolais tout entier, seul détenteur de la souveraineté nationale, qu'il appartient de se prononcer librement. Dans l'état de droit que nous construisons, nous ne pouvons pas prétendre substituer des voix plus autorisées au suffrage universel.
Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que ces vœux du président Faure Gnassingbé ont laissé insensible l'opposition togolaise dans son ensemble à Lomé jeudi, Peter Dogbé.
Tout le monde attendait ce discours et au finish, c'est tout le monde qui est déçu. D'abord, pour Paul Dodia Pévon, ce n'est pas un chef d'État qui ressent la profondeur de la crise que vit le pays.
J'ai senti quelqu'un qui ou bien n'est pas conscient de ce qui se passe ou se fout totalement du peuple. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, qui veut rester, mais qui ne cherche pas à régler ce qui est la préoccupation majeure des populations aujourd'hui.
En parlant du dialogue, ajoute Paul Dodia Pévon, c'est tout comme le président de la République a déjà la solution à l'échec du dialogue. Et Brigitte Kafuya Jamagbo Johnson d'avertir.
Mais lui, il présage déjà de l'issue du dialogue. Si référendum il doit y avoir, il faut que nous le décidions ensemble. Et nous pensons que, encore une fois, sur ce plan, il fait preuve de duplicité et de mauvaise foi.
C'est un discours, s'exclame Tipi Salif Ouattadam, pour donner plutôt raison au peuple togolais.
Le président Faure confirme qu'il se fout pas mal du peuple togolais. Après tout ce qui s'est passé au cours de ces 5 mois, écouter un discours comme celui-ci, on conclut que le président n'a pas écouté. Il n'est pas en train de prendre la mesure de la situation.
Dans les états-majors de tous les partis politiques, on se demande si le président de la République vit les mêmes réalités que les Togolais. Jean-Pierre Fabre n'attendait rien de ce discours et pour lui, il n'est pas question de baisser les bras. Au contraire, se préparer à répondre avec courage à une telle attitude du chef de l'État.
C'est dit, Kaba, on va commencer avec le Togo. Le président Faure Gnassingbé fait quasiment l'unanimité contre lui.
Oui, il faut. Moi, je pense que sa responsabilité en tant que président de la République, c'est de rétablir la confiance avec l'opposition pour rechercher le voie d'un compromis politique. Au Togo, la confrontation n'arrange personne. La nature du régime est telle que si on va à la confrontation, il risque d'avoir beaucoup de morts. Donc, il faut rechercher un compromis politique et le compromis politique ne peut passer que par la discussion avec l'opposition pour voir quelles sont les voies et moyens pour que le pays puisse trouver un compromis politique et aller de l'avant. Je note que les deux points qui ont été avancés, les revendications de l'opposition sont justement le fait qu'il y ait un scrutin à deux tours et non à un tour comme c'est le cas actuellement, et la limitation de mandat à deux. La difficulté se pose au niveau de à quelle période la limitation des mandats commence. Oui. Pour le pouvoir actuel, on remet le compteur à zéro et le président Faure se présente encore pour 10 ans. Pour l'opposition, la limitation s'applique immédiatement. Donc, à mon avis, comme il y a des positions tranchées comme ça, il faut, dans le cadre d'une discussion, d'un compromis politique dynamique, trouver la solution et voir comment ça peut se faire. Si les Togolais ne peuvent pas le faire eux-mêmes, il y a des médiations extérieures. On sait que pendant très longtemps, les Nations Unies, le bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, avec Ibn Chambas, a joué un rôle. Et avant que Ibn Chambas ne commence à être recusé par l'opposition du fait de sa proximité présumée avec le pouvoir, il faut trouver, de mon point de vue, des médiateurs qui permettent au moins de faire les discussions, puisque déjà le bilan humain est lourd. Il y a une vingtaine, peut-être même une trentaine de morts.
On ne peut pas. La situation est bloquée. Il n'y a pas de dialogue.
Absolument, il n'y a pas de dialogue. Et moi, je ne pense pas que la confrontation soit la solution dans ce cas, parce que on risque d'arriver encore à des dizaines de morts, alors qu'on peut faire l'économie de cette violence en recherchant un compromis politique dynamique. Parce que lorsqu'on voit une négociation, on ne gagne pas à 100%, quel que soit son camp. Donc, il faut faire des concessions de part et d'autre, trouver un compromis politique qui permette au Togo d'avancer, qui permette au Togo de retrouver sa place dans cette CDAO, dans cet environnement-là.
Ce qui vaut pour le Togo, Sédi Kaba, vaut aussi pour la République démocratique du Congo.
Absolument.
On a aussi le même problème de transition démocratique et donc ces manifestations au début de la semaine chez les chrétiens, des victimes et la position de l'Église, on l'a entendu, hein, qui est très franche, très affirmée.
Absolument. Mais l'Église est obligée d'assumer cette position parce qu'on se souviendra que c'est l'Église qui a permis le compromis du 31 décembre 2016. Un accord a été trouvé sous l'égide de l'Église pour faire des élections et ce compromis a été sabordé. La mise en œuvre de ce compromis a été complètement sabordée par le pouvoir actuel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le pouvoir a joué la technique du glissement, comme ils appellent, retarder les choses pour que, à la fin, on constate que techniquement, ce n'est pas possible. Et moi, personnellement, je pense que on a prévu les élections pour cette année 2018. Si on ne prend pas garde, la même chose, la même stratégie de glissement va s'opérer et puis on sera dans une situation où on ne peut pas durer. Mais je pense que ce qu'on vient de vivre en décembre cette année en République démocratique du Congo, on a franchi un cap. Jusqu'ici, en Afrique, on a sanctuarisé les lieux de culte. Qu'ils soient religieux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, il y a une certaine pudeur à aller attaquer les gens dans les lieux de culte. Et là, on a vu que des bombes lacrymogènes ont été jetées sur des fidèles qui étaient en prière. Des prières ont été empêchées. Je pense que la République démocratique du Congo a choisi un cran supérieur dans l'escalade et il est à craindre que ce pays, qui est important pour la stabilité de cette région, bascule dans la violence. Parce que, faute de solution politique, qu'est-ce qui va rester aux gens? Les gens vont dire, bon, puisqu'il n'y a pas de solution politique, envisageons la solution militaire, la solution de la lutte armée. Et je ne pense pas que ce soit la bonne solution, puisque la RDC a déjà connu une alternance militaire. Kabila père était arrivé par les armes pour chasser Mobutu. Si cette fois-ci aussi il faut aller par les armes, ce pays qui aurait pu être le phare de l'Afrique avec les ressources qu'il a, se trouve aujourd'hui dans une situation où il ne peut même pas assurer la sécurité de ses frontières. Au Kasaï, ça ne va pas. Au Kivu, ça ne va pas. Au Kasaï central, il n'y a nulle part où il y a la sécurité au Congo, en République démocratique du Congo, et cela est préoccupant pour la stabilité du continent entier.
Sédic, suite d'une semaine d'actualité en Afrique, et revenons sur une étude passionnante consacrée à la chirurgie sur le continent. Étude publiée dans la revue médicale britannique, revue de référence, The Lancet, à partir de données de 247 hôpitaux dans 25 pays du continent africain, donc Karine Franck.
En Afrique, les patients sont plus jeunes et subissent des interventions moins lourdes. En théorie, la mortalité devrait donc être moins élevée qu'ailleurs. Et pourtant, c'est tout le contraire, expliquent les auteurs de cette étude, notamment à cause des complications post-opératoires. Près d'un patient sur cinq en a développé une et parmi eux, presque un sur dix en est mort. Alors que quatre patients sur cinq étaient considérés à risque faible, ils étaient jeunes et en bonne santé. Beaucoup de vies pourraient être sauvées par un suivi efficace des patients, peut-on lire dans le Lancet. Une pénurie de main-d'œuvre et de ressources aboutissent à une chirurgie moins sûre. Pour améliorer ces résultats, l'équipe de chercheurs appelle à une amélioration de la surveillance des patients pendant et juste après leur opération. Autre sujet d'inquiétude, le besoin criant de chirurgie sur le continent, où seulement 212 opérations sont pratiquées pour 100 000 habitants par an, soit 20 fois moins que ce qui serait nécessaire pour couvrir les besoins vitaux de la population. Il n'y a même pas un chirurgien, un obstétricien ou un anesthésiste pour 100 000 habitants, alors qu'il en faudrait entre 20 et 40. Selon les chercheurs, l'absence de chirurgie en Afrique tue énormément et de manière silencieuse.
Sédic, parlons pour finir notre voyage cette semaine d'un rassemblement mardi à Bamako, un rassemblement de femmes qui dénoncent les violences conjugales. Un reportage de Kaourou Magassa.
L'émotion est encore forte et les yeux rougis. Traoré Koumbaba, cousine de Fanta Sekou Fofana, mort des suites de violences conjugales, rejoint les militants de la cause féminine. Touchée, elle est venue avec une délégation de sa famille porter un message.
On est là pour vraiment dénoncer cette violence faite à la femme. On est là aussi pour des plaidoyers, pour que, que les autorités maliennes appliquent une loi ou bien je ne sais pas quoi, pour que vraiment ça s'arrête, quoi. On dit vraiment stop, quoi. Parce que Fanta, c'est une victime de trop.
Pour ces femmes, rien ne justifie la mort. Surtout pas l'appellation de crime passionnel. Pour Assetou Kouyaté, trop de crimes, trop de violences ont été pardonnées.
Les hommes se permettent beaucoup de choses car ils savent que rien ne se passera après. Des interventions sociales se font et les plaintes s'arrêtent. Nous voulons que cela cesse parce que tant que les hommes auront cette idée qu'il n'y a pas de suite aux causes, les violences continueront.
Un micro est tendu à la salle. L'éducation est mise en cause tout comme la culture du silence. La question de la place de la femme dans la société se pose. Le rappeur Master Soumy est venu prôner plus de sensibilisation.
Parler des droits de la femme, parler de l'égalité homme-femme, etc., c'est considéré comme des tabous. Mais il faut en parler pour éviter ce genre de situation.
Une manifestation est prévue samedi pour porter le deuil et ouvrir les débats. L'Assemblée nationale a été choisie comme point d'arrivée. Manière pour les Amazones de prouver leur détermination en faveur d'une loi.
Manifestation donc aujourd'hui, une semaine d'actualité, Sédic Abba, la parole des femmes se libère aussi en Afrique.
Absolument, il faut l'encourager, il faut encourager cette libération de la parole, il faut encourager cette attaque qui est portée au tabou, les violences faites aux femmes ont été pendant très longtemps esquivées, très longtemps dans les pays africains. Il faudra, je pense, se sortir de ce... Il faut briser ce tabou. Il faut pouvoir mettre sur la place publique et essayer de trouver des solutions à la fois sur le plan législatif, avec des peines de prison plus fermes pour les coups et blessures portées aux femmes, et aussi sur le plan de l'éducation aussi. Il faut éduquer les gens, savoir que les femmes ont des droits, que la société doit évoluer, que même religieusement, même du point de vue religieux, parce que les gens souvent se cachent derrière la religion pour invoquer ces types de pratiques ne se justifient pas, de même d'un point de vue strictement religieux. Et il est intéressant que dans un pays comme le Mali, où il y a des conservatismes, où il y a des pesanteurs culturelles, que cette question ait été abordée. L'espoir est que cela se propage à d'autres pays du continent et que on prenne la mesure de cette situation. C'est absolument une situation, de mon point de vue, très intéressante. Tout comme la question de la chirurgie en Afrique, où c'est tout à fait vrai. Nous tous, on a dans nos entourages, différents entourages, des personnes qui sont sorties d'une opération en se disant que tout s'est bien passé, etc. Et puis, il y a eu des complications post-opératoires, des personnes qui sont décédées pour une opération d'hémorroïdes, ou une personne qui est décédée à la suite d'une intervention pour une fracture du genou, par exemple,
ou des opérations bénignes.
Qui, a priori, sont bénignes, mais qui conduisent à des cas de décès. Je pense qu'il y a le défi de la formation des spécialistes, à la fois en quantité et en qualité, parce que, comme il a été dit dans le reportage, dans certains pays, il n'y a pas de chirurgiens. Les chirurgiens sont dans la capitale ou dans la deuxième ville. À l'intérieur du pays, il n'y a pas. Il faut faire des évacuations sanitaires qui sont très coûteuses et il faut emprunter des routes aléatoires où les patients peuvent mourir avant même d'arriver au lieu de l'opération. Donc, il faudra relever le défi de la formation et le défi de l'équipement aussi de ces hôpitaux. Pas forcément public seulement. Je pense qu'on peut faire des partenariats public-privé pour monter de très bons hôpitaux, ou on peut faire même des coopérations sud-sud entre des pays, par exemple, du Maghreb, qui ont une certaine expertise, et les pays de l'Afrique subsaharienne. Il y a des pistes qui sont possibles. Même quand on n'a pas d'argent, on peut avoir des idées et trouver des solutions ces problèmes.
Alors, c'est dit que terminons dans votre pays de prédilection, le Niger, où dimanche, à toute fin de l'année, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans la capitale contre un projet de loi de finances qu'ils jugent antisocial.
C'est tout à fait exact. Cette loi de finances, bien qu'elle soit déjà adoptée, puisque le Parlement l'a adoptée, en dépit de la mobilisation qu'il y a eu, aujourd'hui pose problème, parce que les gens considèrent, ceux qui sont opposés à cette loi des finances considèrent que elle va encore appauvrir les gens qui sont pauvres. Elle va pénaliser le pauvre, puisque il est prévu notamment une hausse du prix de l'électricité, il est prévu la taxation des successions, il est prévu un certain nombre de mesures qui peuvent enchérir la vie dans le pays, et c'est pour cette raison qu'il y a encore de la mobilisation. Moi, à titre personnel, je pense que le pouvoir n'a pas actionné. Il est tout à fait intéressant, compte tenu de la chute du cours d'uranium, que le pays recherche des recettes pour le pays. Oui. Mais il faudra actionner des bons leviers et il faudra commencer par donner l'exemple. Si le pouvoir veut faire des économies, il faut réduire la taille du gouvernement. Le Niger a un gouvernement de 43 ministres. Il aurait fallu, pour montrer que le pays est en difficulté, raccourcir la taille du gouvernement et puis imposer un train de vie de l'État qui amène les citoyens à convaincre que le pays a des difficultés, parce que réduire les salaires, pourquoi pas, des ministres, et réduire le nombre des conseillers. On l'a vu ici en France, les cabinets ministériels ont été ramenés à des chiffres intéressants. Pourquoi pas au Niger? Il faut commencer d'abord par le train de vie de l'État pour convaincre les citoyens que le pays est en difficulté.
Merci Sedy Kaba, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler du Niger via votre prochain livre cette année. Nos auditeurs le sauront puisque vous serez l'invité de l'émission dès que le livre paraîtra.
Avec plaisir.
Donc dans l'année 2018. Merci Sedy Kaba d'être venu nous voir ce matin. Une semaine d'actualité réalisée par Steven Nesli, une émission que vous pouvez retrouver sur le site de la radio RFI.fr et sur notre application pour téléphone mobile aussi. Profitez-en, elle est gratuite et vous permet d'écouter RFI absolument partout. Vous pourrez aussi retrouver le magazine Idée, le magazine qui interroge, vous le savez, ceux qui pensent le monde. Et demain, nous parlerons de Diogène, vous savez, ce philosophe qui vivait dans une jarre et qui avait demandé à l'homme le plus puissant de son temps, Alexandre le Grand, de ne pas lui faire de l'ombre. Demain dimanche, Idée, 15h10, temps universel pour l'Afrique, 17h10 à Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.